RFI, il est midi à Paris, 14h à Damas.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, une prise de parole remarquée en Syrie. Le président par intérim, Ahmed El-Shara, appelle ce dimanche à la paix après 3 journées de violences communautaires sans précédent depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. Plusieurs centaines de civils alaouites ont été tués. Aux États-Unis, Donald Trump inquiète les professionnels de la mode et du luxe. En cause, la hausse des taxes douanières décidée par le président américain. On en parle dans ce journal. En Argentine, la manifestation pour les droits des femmes à Buenos Aires a eu lieu hier. Elle a été très suivie alors que le président Javier Milei multiplie les attaques contre le mouvement féministe. Notre correspondant a suivi le cortège. Et puis la chanteuse franco-malgache Mandy Le Rouge sort son 2e album intitulé Del Cero, un hommage à la musique sud-américaine notamment. En Syrie, cette déclaration « Nous pouvons vivre ensemble », affirme le président par intérim Ahmed El-Shara. Il a appelé à la paix alors que des centaines de personnes ont été tuées lors d'affrontements meurtriers. L'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, fait état de plus de 745 civils alaouites tués par les forces de sécurité et des groupes affiliés depuis jeudi. Ces violences sur la côte syrienne ravivent les craintes d'une nouvelle déstabilisation. À Damas, dans la capitale, ce climat d'incertitude se traduit par un renforcement des mesures de sécurité, mais aussi par une inquiétude grandissante parmi la population. Reportage au cœur du marché Al-Sarijia, où les habitants expriment leurs préoccupations, de Mohamed Erami.
Malgré le climat de sécurité relatif que connaît la capitale syrienne Damas, les combats armés qui ont éclaté dans les villes côtières ont eu un impact négatif sur le sentiment de sécurité des habitants. Cela s'est clairement reflété dans les témoignages de plusieurs clients du marché Al-Sarijia, en plein centre de la capitale syrienne. Certains estiment que les événements sur la côte pourraient raviver de nouveaux conflits dans le pays.
La situation sécuritaire est très inquiétante. Nous avons très peur. Par exemple, je suis une femme dans la quarantaine et je crains de sortir de chez moi après 17h.
Nous demandons au gouvernement actuel d'intensifier les campagnes de sécurité dans les régions en dehors de Damas, car la ville est plus sûre que les zones rurales et d'autres régions.
D'autres personnes présentes sur le marché ont appelé la nouvelle administration à réorganiser rapidement le système de sécurité dans la capitale et à mettre fin à la présence anarchique de combattants armés dans les rues, les marchés et les quartiers résidentiels.
Nous devons maintenant penser selon la logique de l'État, donc il est préférable pour nous, en tant que citoyens, de traiter avec une entité organisée comme le ministère de la Défense, et non de traiter de manière sécuritaire avec des chefs de factions armées. C'est pourquoi nous constatons un certain laisser-aller sécuritaire.
Depuis le début des combats, dans les régions côtières syriennes, le gouvernement a renforcé la présence des forces de sécurité, installé des points de contrôle et intensifié les fouilles des véhicules et des passants. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
Au Proche-Orient, toujours des signaux positifs pour négocier la 2e phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. C'est ce que souligne le Hamas ce dimanche. De son côté, Israël a annoncé envoyer une délégation à Doha demain pour de nouveaux pourparlers. Hier déjà, des négociateurs du Hamas ont rencontré les médiateurs égyptiens sur le maintien de la trêve fragile à Gaza. Plus en substance sur les revendications de chaque camp, Israël demande une extension de la 1re phase du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril, une démilitarisation totale du territoire palestinien, le départ du Hamas de la bande de Gaza et le retour des derniers otages avant la 2e phase. Le Hamas, lui, demande le retrait total de l'armée israélienne de Gaza, la fin du blocus de l'enclave et sa reconstruction et une aide financière. L'Ukraine affirme que la Russie a lancé plus de 100 drones au cours de la nuit dernière. De son côté, Moscou a affirmé ce dimanche s'être emparé d'un village dans la région ukrainienne de Soumy lors d'une offensive transfrontalière dans le cadre des combats qui l'opposent aux troupes de Kiev dans la région russe de Koursk. Plus globalement, surtout depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'avenir de l'Ukraine inquiète les Européens. Hier, après des frappes russes en Ukraine dans la nuit également, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaya Kallas, a estimé que Vladimir Poutine montrait qu'il n'avait aucun intérêt pour la paix. La France a par ailleurs annoncé une nouvelle enveloppe pour Kiev, près de 200 millions d'euros pour l'Ukraine grâce aux intérêts des avoirs gelés russes, selon Sébastien Lecornu, le ministre français des armées qui s'est exprimé dans le journal La Tribune dimanche. Le ministre a évoqué l'accélération des cessions de matériels anciens, notamment de chars et de véhicules blindés. On le disait, depuis le retour de Donald Trump dans le bureau ovale, sur le plan international, il y a beaucoup d'interrogations, mais aussi au niveau national sur divers sujets. Après les défilés de New York, Londres et Milan lors de la Fashion Week, la semaine de la mode, la hausse des taxes douanières décidée par le président américain inquiète les professionnels de la mode du luxe dans le pays et en dehors. Explication d'Agnieszka Kumor.
Face à la menace des taxes, les géants du luxe et de l'habillement espèrent passer entre les gouttes. Le marché américain, qui représente 80 milliards d'euros de ventes sur un total de 363 milliards d'euros générés dans le monde, est le premier débouché à l'international pour les cosmétiques et la mode. Les fabricants haut de gamme comme LVMH peuvent réduire leurs marges afin de ne pas répercuter ces hausses sur leurs prix. D'autres devront augmenter les capacités de production de leurs usines américaines. Certains, comme Hermès ou Clarins, qui produisent essentiellement en France, refusent un tel scénario. La diversification de l'approvisionnement sera un facteur clé. Certaines pièces d'habillement peuvent provenir des pays qui, à ce stade, ne sont pas visés par les taxes, comme le Vietnam, le Cambodge ou l'Indonésie. Si les prix augmentent, que feront les consommateurs américains ? Eux aussi commencent à s'inquiéter face à un possible rebond de l'inflation.
Agnieszka Kumor. En Argentine, les pluies torrentielles qui ont dévasté la ville Bahia Blanca à 600 km au sud-ouest de Buenos Aires ont fait au moins 13 morts selon les autorités. Des centaines de résidents ont évacué les lieux par sécurité. Deux petites filles sont encore recherchées selon la presse argentine. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Toujours dans le pays, hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Buenos Aires pour la journée internationale des droits des femmes. Alors que le président Javier Milei multiplie les attaques contre le mouvement féministe, les Argentines lui ont répondu dans la rue. Reportage de Théo Conscience.
Devant le congrès à Buenos Aires, des dizaines et des dizaines de paires de chaussures peintes en violet. À côté de chacune d'entre elles, un visage en noir et blanc et une date de décès. Les féminicides existent, martèlent les proches des femmes à qui ont appartenu ces paires de chaussures. Une réponse au président argentin Javier Milei, qui souhaite supprimer la figure du féminicide du code pénal. Marcela est la mère de Julieta Mena, assassinée par son compagnon en 2015.
Nous avons voulu représenter les femmes qui ne sont plus parmi nous. Ici, il n'y a que 162 d'entre elles qui sont représentées. C'est une infime partie, puisqu'en réalité, plus de 350 femmes sont tuées chaque année.
Un peu plus loin, Mélanie noue un foulard vert, symbole de la lutte pour le droit à l'avortement, autour du poignet de sa fille Lucia, 9 ans.
C'était important de venir avec elle, car je crois qu'il faut aborder les bases de la pensée féministe dès le plus jeune âge, pour qu'elle ne se laisse écraser par rien, ni personne.
C'est entre autres en descendant dans la rue et en occupant l'espace public que les Argentines ont conquis le droit à l'avortement il y a 5 ans. Alors que ce droit est aujourd'hui remis en cause par Javier Milei, c'est également dans la rue que le mouvement féministe l'a défendu hier. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Elle n'est pas argentine, mais elle est amoureuse de la pampa. Je parle de la chanteuse franco-malgache Mandy Le Rouge, dont le deuxième album vient de sortir, intitulé Del Cerro, Sophie Torlotin.
Et si c'était une femme, une Française, qui avait écrit certaines des plus grandes œuvres de la musique argentine ? C'est la découverte que fait Mandy Le Rouge, enfant du métissage, née d'un père malgache et d'une mère française, lors d'un de ses voyages dans son pays d'adoption, l'Argentine. Après un premier album remarqué il y a 4 ans, cette cavalière émérite, qui s'épanouit au pays des gauchos depuis une dizaine d'années, se penche sur le répertoire d'un autre chanteur métissé, Atahualpa Yupanqui, mort en 1992.
Il me galope dans le sang.
Le compositeur d'une centaine des œuvres de ce poète s'appelle Pablo Del Cerro. Mais ce mystérieux Del Cerro est en fait le pseudonyme d'Antoinette Pépin Fitzpatrick. Cerro Colorado, un village à 900 km de Buenos Aires, Mandy Le Rouge retrouve la trace du fils des deux artistes argentins qui lui confie les archives de sa mère, compositrice. Dans ses cartons oubliés, Mandy Le Rouge découvre une œuvre inédite et inachevée d'Antoinette Pépin qui peut enfin prendre vie sur ce bel album.
Sobre los campos la
Et tout de suite, c'est l'atelier des médias avec Steven Jambeau.